À moi, il appartient avec l'aide de la divine piété de défendre en tout lieu la Sainte Église du Christ par les armes. Au dehors, contre les incursions des païens et les dévastations des fidèles, au dedans, en la protégeant par la diffusion de la foi catholique. À vous, très saint Père, il appartient, élevant les mains vers Dieu avec Moïse, d'aider par vos prières au succès de nos armes. Lettre de Charlemagne au pape Léon III en 795.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le décès de Pépin le Bref en 768 permet à son fils Charles et à son autre fils Carloman de devenir roi des Francs. Effectivement, la tradition politique franque autorise le partage non pas du royaume entre le fils aîné et les autres fils, mais à part égale entre tous les enfants du roi défunt. Donc, Charlemagne et Carloman sont en même temps souverains. Mais en 771, la mort de Carloman fait de Charles le seul souverain du royaume des Francs. Son règne commence donc par une mort opportune, quoique naturelle. En fait, Charlemagne est un grand souverain militaire. Il entame dès 772 des campagnes en Saxe afin de christianiser ces provinces de Germanie encore païennes. Il utilise d'ailleurs une brutalité militaire excessive. De même, il devient en 774 roi des Lombards. Il a réussi à écarter le danger que faisait peser le royaume lombard sur les états de l'Église. De même, plus au sud, au-delà des Pyrénées, il entame la constitution d'une marche d'Espagne dans la zone allant de l'Aragon à Barcelone, afin de faire face finalement à la menace musulmane. Puis, sur le plan de l'urbanisme et de l'art, il entame à partir de 794 la construction de ce qu'il est peut-être impropre d'appeler une véritable capitale, mais d'une ville, Aix-la-Chapelle, qui va indéniablement devenir, à partir du début des années 800, la grande ville de l'Empire où l'empereur Charlemagne sera régulièrement résident. Mais au moment où nous le retrouvons, à la fin du 8e siècle, Charles n'est pas encore empereur. Il n'est que roi des Francs. Néanmoins, ce qui est à remarquer, c'est que il dirige un empire déjà territorial, avant même d'être proclamé empereur. Il domine l'actuelle France, la Belgique, les Pays-Bas actuels, une très large partie de l'Allemagne. Il est donc roi des Lombards, ce qui fait qu'il est très présent en Italie. Il est implanté également au nord de l'Espagne. Il s'agit bien donc d'un empire territorial. Mais il ne dispose pas encore de la dignité impériale. À vrai dire, il n'y a sans doute pas tout de suite songé. Par contre, dans son entourage, des clercs, en particulier le grand érudit Alcuin, ne cessent de le pousser à réclamer finalement cette dignité impériale. Alcuin écrit à son souverain « La dignité royale que notre Seigneur Jésus-Christ vous a réservée pour que vous gouverniez le peuple chrétien l'emporte sur les deux autres dignités, les éclipse en sagesse et les surpasse. C'est maintenant sur vous seul que s'appuient les églises du Christ, de vous seul qu'elles attendent le salut. » Que veut dire ainsi Alcuin? Il y a un empereur, certes à Byzance. Mais on va le voir, ce pouvoir impérial byzantin connaît une crise. Il y a un autre grand pouvoir, c'est le pouvoir pontifical. Or celui-ci, à la fin du 8e siècle, connaît également une crise importante. Aussi, aux yeux d'Alcuin, eh bien, le vrai pouvoir, c'est finalement celui dont dispose Charles, qui est à la fois protecteur de l'Église et protecteur des chrétiens de son royaume. Aussi, puisqu'il n'y a plus véritablement de pouvoir à Byzance et que le pouvoir pontifical est contesté à Rome même, eh bien Charles a en ses mains le vrai pouvoir dans la chrétienté occidentale. Les projets au demeurant de devenir empereur trouvent des échos à Rome. Il se trouve que le pape Léon III, qui a été élu en 795, a fait faire une grande mosaïque dans son palais du Latran qui représente le Christ qui confère aux apôtres la mission d'évangéliser le monde. Le Christ, dans cette mosaïque, remet au pape Sylvestre, le pape qui est le contemporain de l'empereur Constantin, les clés du royaume des cieux, en tant que successeur de Pierre. Quant à l'empereur Constantin, il reçoit l'étendard. Or, pour beaucoup de contemporains de Léon III, eh bien, le nouveau Sylvestre, c'est le pape lui-même, et le nouveau Constantin, c'est Charles, le roi des Francs. Donc finalement, à Rome, se dégage l'idée que ce souverain franc, qui depuis fort longtemps, son père l'ayant déjà commencé à protéger l'Église, eh bien mériterait sans doute d'avoir la dignité impériale. D'autre part, les circonstances, le contexte politique du moment aident aussi au développement de l'idée impériale. Premier élément, c'est qu'à Byzance, il n'y a plus d'empereur. En effet, l'impératrice mère, Irène, en 797, a renversé son propre fils Constantin VI pour s'accaparer du pouvoir. Elle l'a d'ailleurs non seulement renversé, mais lui a également fait crever les yeux, ce qui montre que les sentiments maternels sont là dépassés par la soif du pouvoir. Or, aux yeux des Occidentaux, le trône du Basileus, le trône de l'empereur à Byzance, est vide, parce qu'il n'est pas question qu'une femme occupe le pouvoir impérial. Deuxième circonstance qui aide à la marche vers le pouvoir impérial de Charles, c'est la crise que connaît l'Église. Le pape Léon III est contesté à Rome. En avril 1799, il a été enlevé en pleine procession, il a été emprisonné par des membres de l'aristocratie romaine, accusé d'adultère, de parjure, et le bruit a même couru qu'on lui avait coupé la langue et crevé les yeux. Certes, il n'en était rien, et il a réussi à s'évader et à trouver refuge auprès de Charlemagne en juillet 799. Mais indéniablement, la faiblesse du pouvoir pontifical va permettre à Charles de petit à petit monter vers le pouvoir impérial. Le 23 novembre de l'an 800, Charles arrive dans les faubourgs de Rome, où le pape Léon III vient l'accueillir en personne. Le lendemain, il entre dans la ville à cheval, au milieu d'une procession solennelle et des acclamations de la foule romaine. Léon III l'attend au sommet des marches de la basilique Saint-Pierre et il pénètre dans l'église au chant des psaumes. Cet accueil est en fait celui qu'on réservait au IVe siècle et au Ve siècle, aux empereurs chrétiens. Ainsi Charles est reçu comme les homologues très lointains qui avaient existé à la fin du monde romain. Pendant un mois, ou presque, Charles va faire ses dévotions, il visite Rome, il va prier dans les grandes basiliques, bref, il prépare le couronnement. Le 23 décembre 800, il dirige une réunion qui permet d'innocenter totalement des crimes dont on l'avait accusé le pape Léon III. Le surlendemain, jour de Noël, il faut donc faire une cérémonie du couronnement. À vrai dire, il n'existe pas de liturgie en Occident pour les couronnements impériaux. il existe bien une liturgie byzantine, où finalement l'empereur, le Basileus, est couronné à Sainte-Sophie, et puis ensuite le patriarche de Constantinople s'accroupit devant l'empereur et fait ce qu'on appelle la proskynèse, l'adoration, c'est-à-dire une grande révérence qui va jusqu'à mettre son front sur le sol devant l'empereur. Le pape Léon III, même s'il doit beaucoup à Charlemagne, ne souhaite tout de même pas en arriver à cette proskynèse orientale. Il va en fait, désormais, il décide d'inverser la liturgie. C'est-à-dire qu'il couronne Charlemagne et l'empereur va s'agenouiller devant le pape. Les Romains et les Francs qui peuplent la basilique, après le couronnement, proclament à Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur, vie et victoire. Ce couronnement est évidemment un élément très important dans la vie de la chrétienté occidentale. Depuis plus de 300 ans, aucun empereur n'avait régné en Occident. Quelles en furent les conséquences ? D'abord, indéniablement, une concurrence en Occident vis-à-vis de l'empereur byzantin. D'autre part, l'empereur Charles et son successeur Louis le Pieux vont se présenter comme des protecteurs et comme voulant rénover l'Église du Christ. Et c'est vrai que régulièrement, Charlemagne va intervenir dans les affaires de l'Église, y compris dans la liturgie de l'Église. Charlemagne, sentant sa fin venir, va faire sacrer son fils Louis en 813. Il va mourir l'année suivante, à l'âge de 72 ans. Louis, qui était le dernier des fils encore vivants de l'empereur, a pu gouverner seul pendant quelque temps. Par contre, la pratique franque du partage des territoires de l'empereur entre tous les fils vivants va provoquer une crise majeure dans les années 840 entre l'empereur Louis et ses fils.